Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Une bonne idée de promenade pour ce grand week-end, la grande exposition qui se tient sur 3 sites différents, à Orléans, Tours et Richelieu, avec pour thème l'un des plus grands châteaux de France. Aujourd'hui disparu, le château de Richelieu. Bonjour Franck Ferrand.
Bonjour Fatima, bonjour à tous. Ce château de Richelieu était la demeure du célèbre cardinal, un grand homme d'État, nimbé d'une légende assez effrayante et qui domine de sa haute silhouette, toute rouge, la première moitié du XVIIe siècle. Eh bien, c'est à lui que nous allons consacrer cette émission, si vous le voulez bien, avec en préambule un retour sur la journée, oh la journée la plus difficile, la plus périlleuse sans doute de sa carrière, cette fameuse journée des dupes de novembre 1630.
Et dans la deuxième partie de l'émission, vous allez recevoir un des grands spécialistes de Richelieu.
Oui, de Richelieu en particulier et du XVIIe siècle en général, c'est en effet Jean-Christian Petit-Fils qui m'a fait l'amitié de répondre à mon invitation. Le cardinal est prêt, Fadima? Alors on va pas le faire attendre.
Allez, c'est parti.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
La grande année de Richelieu, son apogée, c'est 1630. À l'époque, il a 45 ans, cet homme-là, et 6 ans de pouvoir derrière lui en tant que principal ministre. Il faut l'imaginer magnifique, le regard perçant, les traits anguleux, le visage faussement humble, vous savez, puis cette allure altière, impérieuse, qui s'affiche dans tout l'éclat de la tenue écarlate. C'est un homme qui ne laisse rien au hasard, Richelieu. Il gouverne haut la main à travers un roi, Louis XIII, encore jeune, il a 16 ans de moins, et qui s'en remet à lui de la conduite des grandes affaires. Or, dites-vous bien qu'en 1630, la situation est bonne. À l'intérieur comme à l'extérieur. Ça fait 2 ans maintenant que La Rochelle est tombée et la paix d'Alès a mis un terme à la question huguenote, en tout cas pour un moment. En fait, sous couvert de tolérance, on a privé les protestants de toute leur place forte. C'est aussi simple que ça. Au dehors, la France se révèle triomphante. La récente campagne contre les Espagnols en Italie du Nord s'est soldée par un véritable triomphe. Et par ailleurs, la diète de Ratisbonne vient de refuser à Ferdinand d'Autriche la dignité impériale. Bref, la politique de Richelieu accumule les succès. Alors vous allez me dire, tout va bien. Le cardinal doit pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Eh bien en fait, comme souvent, c'est au moment du succès que se rencontrent les vrais ennemis. Or, les vrais ennemis de Richelieu, ce ne sont ni les protestants, ni les Espagnols, ni même la maison de Habsbourg au grand complet. Les vrais ennemis de Richelieu, ils sont plus proches que ça, beaucoup moins nombreux, mais beaucoup plus menaçants pour lui. Ils se trouvent à la cour même, dans le proche entourage du roi, et ils constituent depuis quelques mois une opposition farouche, déterminée, une opposition menée par la reine-mère en personne. Alors la reine-mère, la veuve d'Henri IV et donc la mère de Louis XIII, c'est Marie de Médicis. Ah, une femme très imbue de sa position, jalouse de son autorité. Il faut savoir que 15 ans plus tôt, c'est elle qui a repéré le jeune Richelieu, c'est elle qui a favorisé ses débuts, qui a poussé ses intérêts, qui a tout fait pour que sa carrière soit le plus brillante possible. Or, aujourd'hui, Marie s'estime trahie. Pourquoi ? Oh, ben c'est très simple. La politique de Richelieu, pour la résumer en deux mots, consiste à lutter contre l'hégémonie de la famille des Habsbourg, cette hégémonie sur l'Europe à travers l'Autriche et l'Espagne. Ça suppose de se battre contre des monarchies catholiques en s'alliant avec des princes protestants. Et ça, dans le milieu catholique et pro-espagnol de la reine-mère, eh ben ça ne passe pas. Il faut quand même savoir que Marie de Médicis est autrichienne par sa mère, que sa belle-fille, la femme de Louis XIII, est madrilène, que la pauvre sœur de Louis XIII est en ce moment même reine d'Espagne, autrement dit. Faire la guerre aux Habsbourg, c'est se brouiller avec la famille, et signe avec ça. Mais non content de lutter contre les monarchies catholiques à l'extérieur, le cardinal maintenant s'attaque à l'intérieur à la primauté de la haute noblesse. Lui-même est noble par son père. Richelieu travaille en faveur des classes bourgeoises montantes. Il a aussi des origines bourgeoises du côté de sa mère. Autrement dit, tous les partisans purs et durs de la vieille noblesse, de la vieille église, des vieilles alliances vont se grouper autour de la reine-mère, pour faire obstacle à la politique, disons, la politique trop moderne de Richelieu. Or, le pauvre Louis XIII, lui, se trouve pris en tenaille dans cette histoire. Il est coincé entre la personnalité brillante et archi-efficace de son principal ministre, qui est devenu pour lui une sorte de maître en politique, et puis la présence familière, pressante, de ses proches qui veulent renverser le cardinal. Deux fois l'année passée, en janvier et en septembre 1629, Richelieu a menacé de donner sa démission. Et c'est le roi qui l'a retenu. Et depuis le début de 1630, les hommes de la reine-mère, c'est-à-dire Bérulle et Marillac notamment, n'ont cessé de faire pression pour hâter la chute du principal ministre. Voyez un petit peu l'ambiance à la cour. En juin dernier, la France du cardinal vient de conclure un traité d'alliance avec les Pays-Bas protestants. Autour de Marie de Médicis, aussitôt, ça a été un tollé. Durant l'été, la reine-mère a presque réussi à convaincre son fils de se séparer au plus vite de ce diable d'homme en rouge. Seulement, en septembre, à Lyon, le roi est tombé malade assez gravement, tout s'est trouvé retardé et voilà comment on se retrouve début novembre dans une situation impossible. Louis XIII est sommé par son entourage de se défaire d'un homme qui, pour le reste, est devenu tout puissant. Le samedi 9 novembre, la cour se réinstalle à Paris pour l'hiver. Vous savez qu'on est encore à une époque de cour itinérante. La reine emménage dans le tout nouveau palais du Luxembourg, c'est notre Sénat actuel, palais du Luxembourg qui vient d'être construit à son intention. Avec son deuxième fils, Gaston d'Orléans, avec sa belle-fille, avec toute sa petite cour tellement brillante, elle a juré la perte de Richelieu. « C'est pour demain, prétend-elle, mais c'est mieux que ça, c'est pour ce soir. » Le soir même, le roi réunit en conseil restreint sa mère, le garde des Sceaux Marillac et Richelieu. Et le voilà qui annonce la nomination du frère de Marillac à la tête de l'armée d'Italie. Le garde des Sceaux jubile en secret. La reine-mère rayonne. Le principal ministre encaisse le coup sans broncher. Parenthèse, c'est dans ces moments-là que se manifeste la vraie personnalité de Richelieu, tout en nuances, tout en souplesse. On imagine toujours un personnage extrêmement fort, cassant. En fait, il est assez fragile sur le fond, Richelieu. Bon, je ferme cette petite parenthèse. On y reviendra tout à l'heure avec mon invité Jean-Christian Petit-Fils. Retour donc sur ce conseil restreint du 10 novembre 1630. Les ennemis du cardinal redressent la tête, lui baissent les yeux et à la fin du conseil, la reine-mère le retient et elle lui dit, vous savez, elle contient sa haine évidemment, elle lui dit qu'elle le dépouille de la charge de surintendant qu'il exerçait depuis si longtemps dans sa propre maison. Là, le cardinal marque le coup quand même. Comme toujours, Marie de Médicis est incapable de s'en tenir aux actes. C'est une Italienne, elle a le sang chaud, il faut qu'elle parle, qu'elle s'enflamme, qu'elle s'emporte. Et la voilà qui voue aux gémonies toute la famille de Richelieu, qui injurie sa nièce, Madame de Combalet. Louis XIII, à ce moment-là, est très gêné, bien entendu. Il regarde le bout de ses souliers, il supplie sa mère à mi-voix de se calmer. « Madame, s'il vous plaît, madame. » Et il se tourne tout tremblant vers Richelieu. « S'il vous plaît, monsieur le cardinal, veuillez vous retirer. » Richelieu incline profondément sa haute silhouette. Vous savez, quand il fait la révérence, il donne le sentiment de se casser en deux, il est livide. Il a l'air tout malheureux, comme un enfant grondé injustement. D'un seul coup, on ne voit plus le cardinal impitoyable, mais cet homme hypersensible et plein de doutes sur lui-même dont je vous parlais à l'instant. Louis XIII a des larmes plein les yeux, des larmes d'impuissance. La reine-mère a des larmes plein les yeux, mais elle, ce sont des larmes de colère. Tout est en place pour que se joue l'un des bras de fer les plus importants de toute l'histoire de France.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Vous êtes accordé au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et aujourd'hui, Franck Ferrand vous conte l'histoire du cardinal le plus célèbre de France, le cardinal Richelieu.
Dimanche 10 novembre 1630. Retenez cette date, elle est importante. Tout va se jouer comme dans une de ces tragicomédies que le cardinal de Richelieu s'amuse à trousser à ses heures perdues. Le cardinal n'a pas encore créé l'Académie française, ça va venir plus tard, mais on peut dire qu'il aime déjà les lettres et surtout aujourd'hui, c'est l'amateur de théâtre qui va être servi. Car comme l'a fort bien dit jadis Georges Mongrédien, la pièce se joue en trois actes. Alors, acte premier, scène première, nous sommes dans le grand cabinet flambant neuf de la reine-mère Marie de Médicis au Luxembourg. Imaginez un peu partout découpées dans la boiserie des petites portes qui donnent accès à des dégagements, à des cabinets particuliers. Toutes ont été fermées, quand je dis fermées, à clé de l'intérieur. En effet, La reine-mère, en ce matin du 10 novembre, s'apprête à recevoir le roi, son fils. Et si vous voyez ce que je veux dire, elle n'a pas l'intention d'être dérangée par une visite inopportune. Marie sait qu'avec son fils, c'est le dernier qui a parlé qui emporte l'affaire. Habituellement, le dernier à parler, c'est Richelieu. Eh bien aujourd'hui, elle entend avoir le dernier mot. Le renvoi du cardinal avait été fomenté par les deux reines dès le séjour à Lyon. Mais quand je dis les deux reines, donc Marie de Médicis et sa belle-fille Anne d'Autriche, mais la cabale de Marillac avait fait le choix d'attendre pour passer à l'acte le retour à Paris. Ce dimanche-là, la reine annonce qu'elle prend médecine et qu'elle ne recevra pas. Vous savez que c'était la coutume à l'époque, ces jours-là évidemment on ne recevait pas. Elle fait donc fermer au verrou tous les accès de ses appartements et elle va s'entretenir avec son fils en tête à tête. Oui, sauf que ça... Ce serait compté sans la très grande ténacité du cardinal. Lui se présente au Luxembourg comme si de rien n'était. Et la première personne qu'il croise dans le couloir, c'est le garde des Sceaux, Marillac, qui lui avait refusé une entrevue sous prétexte que lui aussi prenait médecine, tiens, comme par hasard. « Eh monsieur, mais vous voilà !» lui dit Richelieu. « Et vous qui disiez que vous étiez malade ?» Vous imaginez l'embarras de l'autre. La deuxième personne que croise Richelieu au Luxembourg, c'est sa nièce qui lui apprend que la reine s'est enfermée à double tour dans ses appartements. « Ah bon ?» dit Richelieu, là il comprend ce qui est en train de se passer. Seulement, le nouveau palais du Luxembourg, c'est lui qui l'a fait construire pour Marie de Médicis. Il en a scruté les plans, il en a étudié les moindres accès avec les architectes et il sait que, en passant par la chapelle, en tournant par un petit couloir, on doit pouvoir arriver jusqu'à une porte dérobée qui donne sur la chambre de la reine. C'est ce qu'il fait, il arrive devant la porte, il appuie sur la poignée. Et la victoire, la porte s'ouvre et surgit l'homme en rouge. C'est Bassompierre, le grand chroniqueur de l'époque, qui nous raconte en détail l'entrée du cardinal. Je le cite. « Monsieur le cardinal entra, dont le roi fut un peu étonné et dit à la reine « Tout est perdu, le voici », croyant bien qu'il éclaterait. Monsieur le cardinal, qui s'aperçut de cet étonnement, leur dit « Je m'assure que vous parlez de moi ». La reine lui répondit « Nous faisions ». Sur quoi, lui ayant répliqué « Avouez-le, madame !» elle lui dit que oui. Et là-dessus se porta avec grande aigreur contre lui, lui déclarant qu'elle ne se voulait plus servir de lui. Alors le cardinal approche de la reine, il met un genou à terre. Je vous ai dit qu'il est capable de plier quand les choses vont vraiment mal. C'est ce que fait Richelieu. Il la supplie de bien vouloir écouter ses raisons. S'il a eu des torts, il est prêt à les admettre. Et il demande au roi, parce qu'il se retourne contre Louis XIII, qui après tout doit rester le maître. C'est lui qui règne, et non sa mère. Il supplie Louis XIII de l'écouter. « mais madame, insiste-t-il auprès de la reine-mère, que dites-vous ? Vous me torturez. » Et là, on reprend Bassompierre, avec une contenance respectueuse et dans les termes les plus humbles et les plus soumis qu'il put trouver, accompagné même de l'arme qu'il avait à son commandement. Il lui parla de la manière du monde la plus touchante et la plus propre à la fléchir. Mais la haine et la colère de la reine-mère contre lui étaient montées à un si haut point que ses soumissions, ses prières, ni ses larmes ne purent jamais l'émouvoir. Richelieu a perdu la partie, la reine-mère lui demande de quitter, séance tenante, sa chambre. Une jolie gavotte de l'époque, interprétée par Jordi Savall, extraite de son album « L'orchestre de Louis XIII ». Acte 2, scène 1 de cette tragicomédie de la journée des dupes. Nous sommes en novembre 1630 et cette fois, on change de décor. Nous sommes dans le petit cabinet de Louis XIII, dans l'hôtel où il réside pendant les travaux du Louvre et qui se situe rue de Tournon, donc tout près du Luxembourg. À propos de la scène qui va se jouer maintenant, j'aimerais souligner un aspect fondamental. C'est que c'est une scène à deux personnages. Autrement dit, en dehors de Louis XIII lui-même, il n'y a pas eu de témoin de ce que je vais vous raconter maintenant. Ou plutôt si, il y a eu un témoin et un seul, qui a été en même temps l'acteur principal de la scène. Or, ce témoin, c'est un des favoris du roi, le duc de Saint-Simon, qui n'est autre que le père du grand mémorialiste de la cour de Louis XIV. Et c'est le fils, naturellement, c'est notre célèbre duc de Saint-Simon mémorialiste, qui a repris les anciennes confidences de son père et nous a raconté la scène avec ce talent que vous lui connaissez, il faut bien le dire aussi, avec sa fâcheuse tendance à enjoliver les choses. Surtout quand l'honneur et la réputation de sa famille, de son propre père, sont en jeu. Si l'on en croit Saint-Simon dans cette affaire, son père aurait, disons-le, plus ou moins sauvé la France. Vous comprendrez qu'il faille sans doute en rabattre. En tout cas, c'est évidemment à la relation qu'en a donnée le grand mémorialiste que cette journée dramatique, théâtrale, doit une part de sa célébrité. Voilà ce que nous dit notamment Saint-Simon, encore une fois, le fils de celui qui a eu à jouer. Puisque le roi Louis XIII supplie son valet de chambre de lui donner son point de vue sur les choses, eh bien, nous dit Saint-Simon, il lui dirait franchement, puisqu'il le lui commandait si absolument, le peu de réflexions qu'il avait faites depuis la sortie de la chambre de la reine, conforme à celles que lui avaient inspirées les précédents progrès d'une brouillerie qu'il avait craint de voir conduire à la nécessité du choix où les choses en étaient venues. Qu'il fallait considérer la reine comme prenant aisément ses amitiés et ses haines, peu maîtresse de ses humeurs, voulant néanmoins être maîtresse des affaires, et quand elle l'était en tout ou partie, se laissant manier par des gens de peu, sans expérience ni capacité, n'ayant que leur intérêt, dont elle revêtait les volontés et les caprices et les fantaisies des grands qui courtisaient ces gens de peu, lesquels, pour s'en appuyer, favorisaient leurs intérêts et souvent leurs vues les plus dangereuses. On l'aura compris, aux yeux du valet de chambre de Louis XIII, Marie de Médicis est une intrigante. Le bon ministre, le bon serviteur, celui sur lequel il convient de s'appuyer, c'est Richelieu. Et l'on va voir cette scène incroyable, c'est le valet lui-même qui convainc son maître de se remettre en selle et d'aller avec Richelieu régler les affaires de la France.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, vous êtes au cœur de l'histoire et aujourd'hui, c'est le cardinal Richelieu qui est à l'honneur du récit de Franck Ferrand.
Alors, que fait le jeune Louis XIII quand tout le poids du monde lui paraît reposer soudain sur ses épaules ? Eh bien, il s'enfuit. Il s'enfuit vers son refuge, vers sa Thébaïde, vers ce relais de chasse isolé qu'il s'est fait construire à 4 lieues de Paris vers le sud-ouest. Le troisième et dernier acte de notre drame va se jouer en effet dans un endroit inattendu, un endroit mythique entre tous, infiniment différent de ce qu'il allait devenir par la suite. Il s'agit, vous l'avez compris, du tout premier petit château, un château de cartes, nous dit Bassompierre, que Louis XIII a commencé de se faire construire à Versailles. Quand vous regardez, grâce aux savants travaux de Jean-Claude Le Guillou notamment, la reconstitution de ce qu'était cette demeure en 1630, vous comprenez que les contemporains s'en soient un petit peu moqués. Ce n'est ni plus ni moins qu'une grosse maison bourgeoise à 9 fenêtres en façade avec 2 petits retours de commun entourés d'un fossé. Bref, exactement le refuge, la retraite, le lieu où l'on va s'enfermer pour goûter le silence, loin des tracas de la cour et du fracas du monde. Alors au même moment, que fait Richelieu ? Le cardinal est complètement déprimé. Il est prêt à quitter la partie. Son sort est scellé, la reine-mère le matin même l'a formellement chassée de sa maison. Elle a déclaré qu'elle refuserait de siéger au conseil en sa présence. Or, le roi n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas eu un mot pour le défendre. Ainsi donc, triomphe la cabale des Marillac, de la princesse de Conti, de la duchesse d'Elbeuf et finalement la cabale de Gaston d'Orléans. Ils ont gagné, l'éminentissime doit se retirer. Richelieu, qui se sait perdu, n'hésite plus que sur le degré de dureté de ce qui l'attend. Est-ce qu'il va seulement être oublié ? Est-ce qu'on va l'exiler ? Est-ce qu'il risque en tout cas lui, sa tête ? Est-ce qu'on va le mettre en procès ? Il fait préparer pour plus de sûreté son carrosse, juste pour l'issue du dîner, ce qu'on appelle le dîner à l'époque, c'est notre déjeuner, et il s'apprête à quitter le petit Luxembourg sous les quolibets de tous ceux qui osent enfin tomber le masque et le haïr à visage découvert. Il doit passer par Pontoise, gagner le Havre dont il est gouverneur, et certains prétendent que prévoyant, il a déjà fait envoyer des charrettes pleines d'or et qu'il fait affréter un navire pour prendre le large. Eh bien, c'est à ce moment-là que s'annonce un des rares vrais amis du cardinal, lui aussi membre du Sacré Collège, le cardinal de La Valette. Vous savez, dans toutes les histoires de ce genre, il y a toujours le bon conseiller, celui qui va changer le cours des choses. Nous avons vu le bon conseiller de Louis XIII, c'était son valet, Saint-Simon. Eh bien, le bon conseiller de Richelieu, c'est La Valette. Il faut dire qu'en même temps, Richelieu vient de recevoir un message que lui a fait passer Saint-Simon, justement, et qui lui signifie sa convocation pour Versailles. Est-ce qu'on le convoque pour le mettre en accusation? Est-ce qu'on le convoque pour avoir une conversation? C'est compliqué, cette histoire. S'il ne tenait qu'à Richelieu, il ne donnerait pas suite à la convocation. Mais il y a La Valette qui lui dit « Vous ne pouvez désobéir au roi, on vous convoque à Versailles, vous vous devez de vous y rendre. » Pendant ce temps, au Luxembourg, Marie de Médicis fête sa victoire en présence de Marillac et des siens. Jamais on n'avait vu les appartements de la reine-mère à ce point peuplés de tout ce que la cour compte à cette époque de courtisans. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en oubliant de fermer un des accès de ses appartements au Luxembourg, la reine-mère avait commis une imprudence. Et bien là, elle va en commettre une deuxième, et une imprudence bien plus lourde encore, parce que en ne rejoignant pas le roi à Versailles, en restant au Luxembourg avec ses amis pour faire la fête, si je puis dire, eh bien, elle va manquer la partie. Peut-être qu'elle se dit qu'après tout, elle ne serait pas la bienvenue à Versailles. Il faut savoir que Louis XIII, lorsqu'il se rend dans cette petite demeure très isolée, très retirée, le fait en compagnie très restreinte. Il n'y a notamment jamais de dame invitée à Versailles et la reine-mère sait très bien que son fils ne serait pas très heureux de l'avoir arrivée. Néanmoins, fallait-il, comme elle le fait, célébrer une victoire qui n'est qu'aux deux tiers, aller peut-être aux trois quarts remportée? Ça, c'était une imprudence. Et c'est donc le début du troisième et dernier acte de cette tragicomédie, dans le goût de celles qui, au même moment, sont jouées à Rouen, sous la plume d'un jeune génie qui s'appelle Pierre Corneille. Pierre Corneille, qui à l'époque bénéficie du reste de l'appui du cardinal. C'est ce troisième acte qui se déroule à Versailles. Dès son arrivée dans le petit château privé de Louis XIII, Richelieu est introduit par Saint-Simon, bien entendu, dans le cabinet du roi. Là, Louis XIII paraît changé. Il semble plus sûr de lui, il est rasséréné, il parle au ministre avec chaleur, avec affection, et loin de triompher, le cardinal de son côté fait un sceau d'humilité, de gratitude, de servilité peut-être. Ils conviennent tous les deux de se rendre ensemble dans la chambre de Sa Majesté où attendent les intimes du roi. C'est une façon de montrer que le roi maintient sa faveur au cardinal. Et pour que cette faveur éclate bien nettement à tous les yeux, eh bien Louis XIII va embrasser Richelieu en public. Restait à prendre acte de l'échec de la cabale. Marillac, le soir même, est sommé de rendre les sceaux, et puis il est arrêté en bonne et due forme, ce qui arrive également à son frère, le maréchal de Marillac, deux jours plus tard. Quand Richelieu garde une partie, il est rare que la vengeance soit très longue à venir. Le lendemain, 11 novembre 1630, le roi rentre à Paris en carrosse, le cardinal est à sa portière, et Montglat nous dit « Cette nouvelle surprit fort la reine-mère et tous ceux de son parti, et diminua la foule qui était au Luxembourg, laquelle s'éclaircit en peu de temps. » En quelques jours, toute la haute administration va être épurée, ce sont des coupes claires. La reine-mère tient parole, jamais on ne la reverra au conseil. Du reste, en tant qu'ancienne régente, elle était un peu en sursis. Elle avait suivi le roi à Compiègne, mais au moment où la cour regagne Paris, elle reçoit l'ordre de se rendre à Moulins et de ne plus reparaître à la cour. Entre nous soit dit, c'est ça une fin de cinéma plus que de théâtre. Vous savez que quand on voit la mauvaise reine déjouée dans ses plans, contrainte de fuir encore la cour de son fils, mais cette fois, elle est obligée de la fuir pour de bon. Marie de Médicis va rester en effet 12 années en exil, 12 ans de fuite éperdue et de tentatives minables de complot auxquelles personne ne croit plus autour d'elle. Elle s'en ira promener son ennui outre-Manche, outre-Rhin, c'est-à-dire du reste dans des pays protestants qui semblent assez peu rancuniers à son égard. Elle perd plus ou moins la considération du monde, elle va s'enfermer dans ses contradictions. C'est vraiment la punition du mauvais. Elle mourra presque seule, en tout cas bien éloignée des siens, à Cologne en juillet 1642. On peut dire que c'est quand même une triste fin pour une des figures les plus sombres au final de notre histoire nationale. Et pourtant, en 1630, la victoire était passée si près pour la reine-mère. Elle y a cru,
C'est le moins qu'on puisse dire. Elle a même fêté sa victoire. Elle voyait Richelieu défait et elle restaurée dans son ancienne prééminence. Elle aura été, avec tout son petit complot, elle aura été la dupe de l'affaire. C'est d'ailleurs exactement le nom que lui donnera Guillaume Bautru, comte de Sérent, un des futurs premiers académiciens français désignés par Richelieu lui-même. Il appellera cette journée la journée des dupes. C'est le nom qu'elle a conservé dans l'histoire. Là-dessus, comme aurait dit le cardinal, mesdames, messieurs, humbles serviteurs.
Merci Franck Ferrand.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Et au cœur de l'histoire consacrée aujourd'hui au cardinal Richelieu, avec vous Franck Ferrand et vos invités du jour, Jean-Christian Petit-Fils, historien et auteur de Louis XIII aux éditions Perrin, et Isabelle Klinka-Ballesteros, conservateur en chef, directeur du musée des Beaux-Arts d'Orléans et co-commissaire de l'exposition Richelieu à Richelieu, architecture et décor d'un château disparu.
Bonjour Jean-Christian Petit-Fils, je suis ravi que vous ayez pu nous rejoindre. Alors nous avons laissé Richelieu épuisé mais heureux d'avoir surmonté une terrible épreuve. Nous sommes donc à la toute fin de l'année 1630. Que nous prouve cette journée des dupes ? Que Louis XIII ne pouvait pas se passer de son mentor ?
Oui, et c'est en fait la fin de deux choses. La fin de la double fidélité pour Richelieu. C'est-à-dire que Richelieu était à la fois l'homme liege de la reine Marie Médicis.
Alors là,
et
ce sera plus le cas,
fidèle
évidemment.
Du roi. C'est la fin. Et pour lui, il était déchiré entre ces deux fidélités, surtout à la fin. Et puis, c'est pour Louis XIII et pour la politique, de façon générale, la fin de l'option pacifiste incarnée par Michel de Marillac. Cette fois, donc, on s'engage, il y a le pouvoir, au fond, se trouve recentré et concentré.
C'est presque un coup de force en creux, à l'envers, en quelque sorte. C'est-à-dire que, dans cette affaire, Richelieu n'a rien décidé, mais il va tirer bénéfice de ce retournement inattendu, inespéré de la situation.
Oui, il faut bien voir que Richelieu, c'est un homme hypersensible, un anxieux, qui a vécu ce drame qui se déroule sur deux jours, l'affaire des dupes, la journée des dupes, c'est deux journées en fait,
oui.
Eh bien, il l'a vécu dans l'angoisse absolue. Alors que Louis XIII avait, me semble-t-il, d'ores et déjà fait son choix auparavant.
Oui, c'est ce que j'essaie de montrer. Je pense qu'en fait, dans l'esprit de Louis XIII, il n'y a jamais eu tellement de doutes.
Il n'y avait pas de doute,
à ce moment-là.
Sa mère lui avait arraché une promesse, une vague promesse de renvoi sur l'île de mort, quasiment, parce qu'il était dans un état physique d'épuisement total. Mais en fait, non, il était décidé et persuadé qu'il fallait garder Richelieu.
C'était un sentimental, Richelieu. C'était un homme qui vivait aux affects. C'est pas l'image qu'on en a gardée, bien sûr.
Absolument. C'est un homme sensible, qui a un sens de la persuasion, un sens de la volonté. Il faut bien voir qu'en fait, il y a un triple personnage en lui. Il y a d'abord l'aristocrate. Bon, c'est-à-dire, c'est un grand seigneur. Il voudrait être un grand seigneur. Et une de ses plus grandes joies, c'est d'avoir vu sa terre de Richelieu érigée en duché Péri. Ça, c'est pour lui capital. Et c'est pour ça d'ailleurs, en tant qu'aristocrate, qu'il n'est pas tellement pour le nivellement des rangs.
C'est moins compliqué.
Et même en ce qui concerne les duels, il est un peu en retrait par rapport à l'interdiction que le roi voudrait absolue. Deuxième chose, c'est un homme de guerre, c'est un militaire. Il était au départ destiné à être à faire une carrière dans l'armée. C'est seulement parce que son frère Alphonse, qui était destiné à reprendre l'évêché de Luçon, a voulu se faire chartreux, qu'on a changé son fusil d'épaule, si je puis dire, au sein du clan familial, parce que tout ça se gère au sein du clan familial. L'évêché de Luçon était gardé depuis 50 ans dans la famille, donc on voulait absolument qu'il y ait un héritier Richelieu. Donc il s'est orienté vers la prêtrise et le doctorat, et donc il est devenu évêque de Luçon.
Juste une parenthèse, il avait deux frères qui n'étaient quand même pas piqués des vers. Hein. L'un comme l'autre était quand même de grands fantaisistes. Le second, qui en fait était l'aîné, mourra lui en 1620 dans un duel.
Absolument. Il mourra dans ce duel, et c'est à partir de cela que Richelieu deviendra le chef de famille, chef du clan.
Alors je ferme cette parenthèse, pardon. Et donc le troisième personnage,
c'est le prêtre. C'est important parce que il ne faut pas confondre Richelieu avec Mazarin, qui n'était pas prêtre, avec Talleyrand. C'est un homme
quoi
de prière.
Il y a des ressemblances avec Talleyrand, parfois.
Sur le plan politique, mais oui. Ça, c'est autre chose. C'est, sur le plan, c'est un homme de prière, un homme de foi, qui écrit des traités de morale, de chrétienne, des instructions à ses ouailles. Donc, et il prend ça très au sérieux. C'est quelqu'un du mouvement de la contre-réforme. Et ça montre aussi que c'est un homme qui est beaucoup plus enclin à l'indulgence et au pardon, contrairement à ce qu'on dit généralement, que Louis XIII. Les grandes décisions en matière de peine de mort, d'une façon générale, il est prêtre et il est enclin à une certaine indulgence.
Il avait assez de religion pour ce monde, nous dit le cardinal de Retz. Il allait au bien, ou par inclination, ou par bon sens, toutes les fois que son intérêt ne le portait pas au mal, qu'il connaissait parfaitement quand il le faisait. Donc une parfaite conscience, parfois du mal, effectivement.
Alors, et c'est aussi, il faut bien le voir, c'est un homme de ruse. Il va stipendier des libellistes, il va écrire lui-même des libelles pour vanter ses propres qualités. Il aura un réseau d'informateurs, aussi bien de religieux que de...
On pense toujours au Père Joseph, mais il était loin d'être tout seul.
Il y avait des tribus de Père Joseph à son service, et avec des adjoints d'ambassades, dans les états provinciaux, un peu partout, il y avait des hommes à lui. On retrouve ça finalement dans les Trois Mousquetaires, hein. C'est bien clair, les Rochefort et compagnie, et Milady, c'est vrai, et il usait et abusait un peu trop de la lettre de cachet, d'où la légende noire.
Ce qu'on ne montre pas dans les Trois Mousquetaires, parce que précisément la légende noire a pris le dessus à ce moment-là, c'est que nous avons affaire à un homme qui est capable de fantaisie. On sait qu'il montait constamment des canulars pour ses propres secrétaires. On le voyait faire parfois des choses assez étranges. C'est même la Palatine qui nous dit qu'un jour, il s'était carrément pris pour un cheval et qu'il hennissait dans son appartement. Alors attention, elle raconte ça très longtemps après la mort du cardinal.
Mais... On a quelques témoignages, en effet, montrant des sautes d'humeur, montrant peut-être des crises d'épilepsie. Donc c'est un malade. Mmh. Il faut dire qu'il y a un grain de folie dans la famille des Richelieu, puisque Nicole Richelieu, sa sœur, mourra folle. Mmh. Et sa nièce, Claire-Clémence de Maillé-Brézé, elle-même également mourra folle et enfermée.
Je reprends encore Retz. Il eût souhaité être aimé du public, mais quoi qu'il eût la civilité, l'extérieur et beaucoup d'autres parties propres à cet effet, il n'en eut jamais le je ne sais quoi qui est encore en cette matière plus requis qu'en tout autre. Il ne savait pas vraiment plaire et pourtant il aurait tant aimé. C'est un peu le drame de Richelieu, ça.
Il y a un côté séducteur aussi.
C'est ça.
Il a une belle prestance, c'est un orateur, mais en même temps un homme direct dont il ne parvient pas à susciter l'élan des foules.
On pourrait passer des heures à faire le portrait de ce personnage, hein. C'est assez extraordinaire. Je renvoie bien sûr les lecteurs à votre biographie de Louis XIII, où il est extrêmement présent, le Louis XIII de Jean-Christian Petit-Fils, c'est chez Perrin. Nous allons essayer tout à l'heure d'en savoir aussi un peu plus sur son quotidien, sur la façon dont vivait cet homme tellement incroyable.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
De cour de François de Chancy pour se mettre dans l'ambiance de cette cour de Louis XIII qui est peut-être autant la cour de Richelieu, quoique Jean-Christian Petit-Fils, on ne confond pas les deux cercles, hein. Il y a bien deux univers assez distincts.
Oui, c'est un homme, en privé, c'est un homme assez simple.
Richelieu.
Richelieu, oui. Il soupe, dîne, de façon sans apparat. Il n'aime pas trop les foules, on l'a vu. Il a en revanche un cercle d'amis, de poètes, que ce soit Malherbe, l'abbé de Boisrobert, avec lesquels il plaisante, il est extrêmement gai. D'un autre côté, Et vous le soulignez tout à l'heure.
Il aime faire un saut d'esprit. Hein, il adore ça, d'ailleurs. Les joutes d'esprit.
Bien sûr. Et puis faire des bons mots, se moquer des uns, des autres, faire des calembours, des jeux de mots. Madame de Chevreuse, il l'appelle la chevrette, etc. Et ça, en même temps, c'est un faux modeste. Alors, il fait semblant de dédaigner les compliments, alors que il ne vit que de ça. Il est avide de louanges et naturellement, tous ceux qui sont autour de lui s'empressent de chanter sa louange.
Vous nous avez dit tout à l'heure, Jean-Christian Petit-Fils, qu'il voudrait être grand seigneur. Il l'a montré notamment par son train de vie. Voilà quelqu'un qui s'entoure d'un luxe effréné. Alors nous n'avons plus aujourd'hui ni le palais cardinal, puisque ce qui reste aujourd'hui du palais royal doit beaucoup à Victor Louis et aux travaux menés au XVIIIe siècle par la famille d'Orléans. Nous n'avons plus sa maison de Rueil non plus. Et le palais, le véritable l'espèce de Versailles avant la lettre qu'il s'était fait construire à Richelieu même, a disparu au moment de la Révolution.
Un palais grandiose qui a disparu au début des années 1800.
Alors ce palais, en ce moment, une exposition le fait revivre, le ressuscite littéralement. C'est une expo qui se tient sur 3 sites différents jusqu'au 13 juin prochain. On peut aller au musée municipal à Richelieu même, hein, dans cette petite ville tellement merveilleuse. Vous savez, moi je suis de Poitiers, donc je connais bien et j'aime beaucoup Richelieu. On peut aller au musée des Beaux-Arts de Tours pour voir tout le décor intérieur de ce palais. Et puis au musée des Beaux-Arts d'Orléans. Et nous avons justement au téléphone Isabelle Klinka-Ballesteros, qui est conservateur en chef et directeur du musée des Beaux-Arts d'Orléans. Vous avez, Isabelle Klinka-Ballesteros, vous avez participé naturellement à la conception de cette grande exposition.
Oui, absolument. Bonjour.
Bonjour.
C'est en effet un énorme projet que de reconstituer, essayer de faire revivre un décor d'un château disparu.
Et ce château, en l'occurrence, c'est un véritable mirage. On en a tous eu le rêve, je vous le dis franchement. Quand on se promène dans ce qui reste du parc de Richelieu, on essaie d'imaginer tous ces grands corps de logis, ces colonnades, ces incroyables toitures, et puis tout le décor, la statuaire qui était fascinante. Et vous redonnez vie à tout ça.
Oui, en effet, la sculpture, et notamment la sculpture antique, est probablement le domaine de prédilection du cardinal de Richelieu.
Ça, c'est le côté grand seigneur, finalement.
Voilà, tout à fait. Et puis, il y a aussi, là, il faut y voir un programme un peu politique. Derrière ces sculptures antiques, il y a des références de gouvernement en la personne des empereurs et des impératrices qu'il est bon d'avoir sous les yeux.
C'est ça, en fait, tout ça est plein de messages et de symboles, évidemment.
Oui.
Alors, ce sont précisément les grandes statues que vous présentez, vous, à Orléans.
Alors, à Orléans, on présente le décor extérieur des jardins et des façades, notamment le décor de la façade de la cour d'honneur.
Alors, à Tours, ce sont les décors intérieurs qui ont la primauté.
Oui, les grands appartements, l'appartement du cardinal, l'appartement du roi, et l'appartement de la reine et de sa suite.
C'est-à-dire que, en fait, ce que vous nous dites, c'est que la plupart des éléments décoratifs de ce palais extraordinaire est totalement perdu. La plupart sont encore présents. On ne les a pas perdus.
Bien, l'exposition, elle mérite d'avoir essayé de rassembler ce qui était épars et dispersé dans des collections publiques et privées.
Vous avez retrouvé à cette occasion des objets dont on pensait qu'ils n'existaient plus et qui refont surface ?
Oui, absolument. Dans le domaine de la sculpture, nous avons découvert à Richelieu même, dans une collection, un fragment de sculpture. Et dans le domaine de la peinture, quelques mois avant l'ouverture de l'exposition, c'est un tableau qui a été retrouvé. Très fortuitement, mais ça fait partie des bonnes surprises, un Moïse recevant les tables de la loi attribuées à Nicolas Prévost.
Et alors, à Richelieu même, eh bien, à Richelieu, vous évoquez, vous avez recréé la Grande Galerie.
Oui, la Grande Galerie qui, en fait, raconte l'histoire des batailles de Louis XIII pendant son règne, ces batailles conduites avec Richelieu. Et il reste donc sur les 12 tableaux, 6 qui sont présentés à Richelieu et qui montrent bien que les temps sont durs, les dents sont dures sur le plan de la politique intérieure parce qu'il faut se battre contre les protestants, contre les grands également.
Mais on va y venir justement à ça avec Jean-Christian Petit-Fils, mais aussi sur le plan de la politique extérieure. Évidemment.
Mais aussi sur le plan de la politique extérieure parce qu'il faut s'assurer des frontières. contre les Espagnols qui ont des possessions en Italie.
Nous avons vu que Richelieu était un homme plus sensible, plus fantaisiste, plus fragile. Nous n'avons pas parlé de sa santé, mais alors elle est mythiquement, légendairement fragile, cette santé-là. Je conseille à nos auditeurs de mettre à profit ce grand week-end pascal pour se rendre à Orléans, à Tours et ou à Richelieu pour voir donc renaître ce grand palais de Richelieu. Ça s'appelle Richelieu à Richelieu, architecture et décor d'un château disparu. Et c'est jusqu'au 13 juin prochain. Merci beaucoup Isabelle Klinka-Ballesteros.
Merci, au revoir.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30, au cœur de l'histoire, une émission consacrée aujourd'hui au cardinal Richelieu, avec comme invité du jour Jean-Christian Petit-Fils, historien et auteur de Louis XIII aux éditions Perrin.
Je me faisais une réflexion pendant la publicité, je me disais, mais après tout, combien de pays, combien d'États peuvent, comme la France, prétendre avoir été servis et jusqu'à la passion par autant de très grands hommes? Si on ne prend que des ministres, évidemment, on pense à Mazarin, Colbert, Choiseul, Talleyrand, Clémenceau et d'autres, et bien entendu, sans doute au premier rang d'entre eux, Richelieu. Est-ce que nous sommes, Jean-Christian Petit-Fils, redevables aujourd'hui, je parle bien dans nos institutions, dans nos façons d'être et de vivre, est-ce que nous sommes redevables de quelque chose à Richelieu?
Ah, certainement, beaucoup même. Nous sommes des tributaires de cette monarchie centralisée qu'a voulu Richelieu. Alors, il faut bien voir que du temps de Richelieu...
Il y avait du jacobin en cet homme.
Oui, si on veut. Oui.
Je fais exprès un énorme anachronisme, évidemment.
Oui, mais c'est pas top. Faux. C'est un centralisateur et c'est un agent de l'absolutisme. Il faut voir qu'il n'y a pas de diarchie à la tête de l'État, il n'y a pas de duumvirat. Le vrai patron, c'est Louis XIII. Et moins intelligent,
bien entendu. C'est ce que vous avez démontré dans votre livre.
Absolument. Moins intelligent, bien sûr, que Richelieu. Faisant confiance à Richelieu, mais avec un rapport très complexe de jalousie, de méfiance.
Les quatre pieds carrés du cabinet du roi.
Sont plus difficiles à conquérir que tous les champs de bataille de l'Europe. C'est Richelieu qui dit ça. Voilà. Et quand il dit au cardinal de Bérulle, ne vous inquiétez pas, le roi vous a refusé une demande, mais moi, quand je fais quatre propositions et que j'en ai deux qui sont acceptées, je suis fou de joie. Voilà. Donc le roi tient en bride son ministre, se méfie de lui, mais en même temps lui fait une confiance certaine parce qu'il connaît ses capacités. Donc c'est un couple assez complexe, assez bizarre.
Il y a beaucoup de chantage affectif.
Deux malades qui pendant 18 ans vont gouverner la France. À la fin, en 1642, ils vont remonter chacun, l'un va aller au siège de Perpignan, l'autre va remonter vers Paris. Eh bien, à Tarascon, ils sont tellement malades qu'on est obligé de rapprocher leur lit pour qu'ils puissent se parler, puisqu'ils
sont tous les deux quasiment sur leur lit de mort.
Voilà, ce sont des grabataires, ouais. Quasiment. Voilà. Ouais. Alors, l'œuvre dont vous parliez de l'œuvre, ben, c'est une œuvre absolument.
Alors, à l'intérieur, on va faire comme madame, comme la conservatrice du musée d'Orléans, à l'intérieur, les grands acquis de Richelieu.
Ce qu'on peut dire, c'est que Richelieu a lancé des initiatives qui ne seront peut-être pas terminées à sa mort et à la mort de Louis XIII. Les choses s'épanouiront sous le règne de Louis XIV. Bon. C'est évidemment l'absolutisme, c'est-à-dire le système du ministériat. C'est nouveau parce qu'avant, on était dans un système où le roi avait un favori. Là, on a une sorte d'institutionnalisation d'un premier ministre. On ne dit pas premier ministre, on dit principal ministre. On dit principal ministre. Donc c'est une étape importante après les transformations qui seront faites du temps de Louis XIV, évidemment. La lutte contre les protestants, Richelieu n'est pas, c'est pas l'homme qui va révoquer l'édit de Nantes. Il est tout à fait conscient qu'il faut convertir, étant cardinal et évêque romain, il faut convertir les protestants, mais par la douceur, par la persuasion. Et de même Louis XIII. En revanche, ce qu'on veut, c'est détruire l'État dans l'État qui s'est constitué à l'occasion de l'édit de Nantes, qui avait reconnu aux protestants la faculté d'avoir des places de sûreté, plus d'une centaine en France, donc des citadelles, des villes fortifiées avec des armées.
Le mot-clé est bien là, l'État. Tout est pour, par l'État.
Absolument. Mais il faut voir aussi que c'est un État très fragile par rapport à notre État hypertrophié,
eh oui,
avec nos
5,5
millions de fonctionnaires.
Sûr.
Il n'y avait que quelques milliers de titulaires d'office. Face à une société plurielle, anarchique, de corps, d'ordre qui se jalousait et auto-fonctionnant en autonomie. On est dans un système très complexe. C'est pour ça que quand on parle de jacobinisme, de centralisation, il faut bien avoir en tête quelques chiffres, quelques milliers seulement de titulaires d'office propriétaires de leurs charges, par conséquent très indociles.
Oui, qui sont quasiment des personnes privées malgré leur fonction.
Qui privatisent la fonction publique.
Et alors, à l'extérieur, l'État prime aussi, et la grande guerre, le grand ennemi de Richelieu, ce sera la maison d'Autriche, évidemment.
Alors voilà, c'est le choix qui a été fait en 1630. La journée des dupes, c'est pour ça qu'elle est si importante, et vous l'avez bien montré. C'est le choix de la grandeur, l'option de la grandeur, avec évidemment un appauvrissement, une grande tragédie dans les campagnes, avec des soulèvements populaires, des émotions populaires, les croquants, du Périgord, les nu-pieds de Normandie. Il faut envoyer la troupe contre ces gens qui souffrent énormément, notamment d'une pression fiscale considérable. Il faut voir que le budget de l'État passe de 40 millions en 1634 à 200 millions lorsque la France entre en guerre, dans la guerre de 30 ans. Et naturellement, la pression fiscale s'accroît d'autant.
Merci infiniment Jean-Christian Petit-Fils. Je pense que nos auditeurs auront compris que le personnage est tellement vaste et d'une telle complexité qu'on n'en finirait pas, on pourrait lui consacrer de nombreuses émissions. C'est d'ailleurs bien le but que je me propose.
Merci.
Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle votre biographie de Louis XIII chez Perrin, bien entendu. Vous êtes aussi l'inoubliable biographe de Fouquet, mais aussi de Louis XVI, de Louis XIV, etc. Merci beaucoup Jean-Christian Petit-Fils. Merci. Merci Fatima, et à lundi pour un lundi de Pâques très historique.
Et merci à vous Franck Ferrand, bon week-end, restez à l'écoute d'Europe 1 dans un instant, et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard, à tout de suite.